transfert via GAB, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Édouard Dupenoit.
Nous sommes le lundi 15 avril, soyez les bienvenus sur l'antenne de Radio France Internationale. On parle ensemble du Mali ce matin. Le Mali où les autorités de transition ont suspendu en milieu de semaine dernière les activités des partis politiques. Vos réactions sont déjà nombreuses sur ce sujet. Vous nous appelez au 33 9 693 693 70. Vous nous avez écrit aussi sur WhatsApp au 33 6 89 28 53 64 et sur nos réseaux sociaux. Je me ferai l'écho tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission de certaines de vos réactions. Vous avez la parole dans une trentaine de minutes sur le sujet. Mais avant cela, les journalistes de la rédaction et les spécialistes que nous avons joints répondent aux questions que vous nous avez posées sur un sujet d'actualité. Tout ce que vous souhaitez mieux comprendre, tout ce que vous souhaitez approfondir davantage. C'est une question diplomatique qui ouvre cette première partie et c'est Serge qui nous appelle d'Abidjan. Serge, bonjour et soyez le bienvenu sur l'antenne.
Bonjour Edouard et à tous les auditeurs du RFI.
Serge, vous aviez une question diplomatique donc sur ce qui s'est passé avec l'Ukraine la semaine dernière en Côte d'Ivoire. On vous écoute.
D'accord. L'Ukraine a inauguré jeudi dernier son ambassade à Abidjan en Côte d'Ivoire, un jour après l'ouverture de celle en RDC. Alors, j'ai deux questions à ce sujet.
Et la première d'entre elles.
Quel est l'objectif de Kiev derrière l'ouverture de cette ambassade?
Pour vous répondre, nous avons appelé Binta Diagne, notre envoyée spéciale permanente en Côte d'Ivoire. Bonjour Binta.
Bonjour.
Que peut-on répondre à Serge qui se pose la question de l'objectif de Kiev derrière l'ouverture de cette représentation diplomatique?
Alors Serge, l'objectif de Kiev, c'est d'abord d'être présent sur le continent, d'avoir plus de visibilité et surtout d'avoir un relais diplomatique sur place pour défendre sa position. Kiev estime en effet que la Côte d'Ivoire est un partenaire fiable. L'Ukraine est très reconnaissante du soutien diplomatique apporté par Abidjan lors du vote de l'ONU il y a 2 ans. C'est un pays qui nous soutient depuis le début de la guerre et c'est très précieux, souligne l'ambassadeur Yuri Pivovarov, qui parle même d'un soutien inébranlable de la part d'Abidjan. Abidjan, de son côté, réitère sa position. La Côte d'Ivoire plaide pour le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, affirmait jeudi Ouattabouna Ouattara, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères. Alors, à côté de la Côte d'Ivoire, Kiev ouvre aussi 5 autres ambassades, notamment au Rwanda, au Mozambique et au Botswana, des pays qui jusque-là se sont abstenus à l'ONU. Le but, explique l'ambassadeur Yuri Pivovarov, c'est d'informer et d'expliquer la situation en Ukraine. Kiev ressent le besoin, je cite, de contrer le narratif de la Russie qui est largement présent sur le continent, ajoute ce responsable.
Vous parliez de l'abstention lors du vote de l'ONU. Je rappelle en effet, Binta, qu'au moment de la première résolution de l'Assemblée générale, peu de temps après le début de l'invasion russe en Ukraine, sur 54 pays africains représentés, seuls 28 avaient condamné l'invasion russe et ça avait été considéré comme une douche froide à l'époque pour les diplomates ukrainiens. Serge, vous aviez une autre question qui concerne les intérêts de la Côte d'Ivoire, je crois.
Exactement, Edouard.
Alors,
Que peut retirer la Côte d'Ivoire de cette relation?
Et c'est vrai, Binta, quel est l'intérêt que trouve la Côte d'Ivoire dans l'ouverture de cette ambassade ukrainienne?
Alors, dans l'immédiat, la Côte d'Ivoire pourrait donc resserrer ses liens avec ce partenaire. Il faut dire que les relations diplomatiques entre les deux pays datent de 1992, mais les liens économiques se sont surtout renforcés ces dernières années. En 2022, malgré le conflit, les échanges commerciaux entre l'Ukraine et la Côte d'Ivoire se chiffraient à 182 millions de dollars. La même année, la Côte d'Ivoire exportait essentiellement du cacao et ses produits dérivés vers l'Ukraine. En 2023, ses exportations ont augmenté de plus de 40%. Et de son côté, la Côte d'Ivoire importe d'Ukraine du fer, de l'acier. Donc pour la Côte d'Ivoire, l'ouverture de cette représentation diplomatique pourrait donner un coup d'accélérateur dans ses échanges commerciaux et sa coopération avec l'Ukraine. Et d'ailleurs, sur ce plan, plusieurs accords sont en train d'être finalisés. Il y a aussi des accords qui sont en cours de négociation. Je pense notamment à un accord de coopération militaire et technique entre les deux pays ou encore à un accord de coopération entre les chambres de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et d'Ukraine.
Signe que la Côte d'Ivoire y voit également son intérêt. Serge, est-ce que Binta Diagne a répondu aux questions que vous vous posiez?
Ah ouais, très bien, parfaitement, je lui dis énormément merci.
On la remercie également de notre côté. Merci de nous avoir appelé, Serge. On passe d'Abidjan à Lubumbashi cette fois, où c'est Isaac qui nous a appelé. Bonjour Isaac.
Bonjour Edouard.
On écoute votre question.
Oui, bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Rishi Sunak et Paul Kagame en visite à Londres ont renouvelé leur volonté de mettre en œuvre les accords migratoires dès le printemps. Alors, j'ai deux petites préoccupations. La première, les expulsions vont-elles pouvoir commencer rapidement comme ils l'espèrent?
Alors, on va répondre d'abord à la première partie de votre question. Je rappelle effectivement que cet accord dont vous nous parlez, Isaac, c'est un projet qui a quand même plus de 2 ans dans les pattes, qui a usé 3 premiers ministres, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak aujourd'hui, des centaines d'heures de débats parlementaires, c'en est même devenu un slogan politique. Il s'agit d'expulser vers le Rwanda tous les migrants demandeurs d'asile arrivés illégalement sur le territoire britannique. Et Paul Kagame s'est rendu à Londres un peu à la surprise générale, 2 jours après le début des commémorations du génocide des Tutsis. On répond à votre question avec Caroline Renaud. Bonjour Caroline.
Bonjour Edouard.
Journaliste au service numérique de RFI, vous vous étiez penchée sur le sujet pour un long article sur RFI.fr que je vous invite d'ailleurs à retrouver sur notre site internet. Qu'est-ce qu'on va répondre à Isaac qui se demande très concrètement si ces expulsions annoncées par Paul Kagame et par Rishi Sunak vont pouvoir commencer rapidement?
Alors pour l'instant c'est loin d'être gagné. Comme vous l'avez dit, ça fait près de 2 ans que l'accord entre Londres et Kigali a été signé. Pour l'instant aucun migrant n'a encore été envoyé au Rwanda. Le problème c'est que ce projet est bloqué par un certain nombre de décisions de justice, notamment celle de la Cour suprême du Royaume-Uni. En novembre dernier, elle avait jugé que le programme présentait des risques de mauvais traitement et donc qu'il était illégal. Maintenant, pour que le plan rwandais puisse décoller un jour, il faut passer par l'adoption d'un projet de loi qui déclarait le Rwanda comme un pays sûr. Mais voilà, ce texte rencontre aussi des problèmes au Parlement. La Chambre haute a proposé à plusieurs reprises des amendements pour le rendre conforme au droit international sans succès. Le débat reprend aujourd'hui à la Chambre basse qui devra approuver ou non ces modifications.
Sachant que la justice, effectivement, s'était déjà opposée plusieurs fois à ce plan très critiqué. Isaac, justement, vous aviez une question sur la justice britannique et ce qu'elle pourrait faire éventuellement.
Oui, la justice britannique pourrait-elle à nouveau s'y opposer?
C'est vrai que si la loi était adoptée par les parlementaires britanniques, Caroline, est-ce que la justice pourrait de nouveau s'opposer à ce plan d'expulsion?
Mais c'est probable. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en déclarant que la loi, en déclarant dans la loi que le Rwanda est sûr, le gouvernement espère empêcher les tribunaux de se prononcer contre sa politique. La loi les obligerait aussi à ignorer les mesures d'urgence ordonnées par la Cour européenne des droits de l'homme, qui avait déjà bloqué le décollage d'un avion vers le Rwanda en juin 2022. La question, c'est donc de savoir si le gouvernement peut ou non adopter une loi qui passe outre les tribunaux, mais rien n'est moins sûr d'après les experts.
Alors vous parliez de ce premier vol dont on avait annoncé le décollage et qui finalement était resté cloué au sol. C'est vrai qu'il y a aussi des questions de logistique qui se posent.
Exactement. Aucune compagnie aérienne n'a encore été trouvée pour transporter les demandeurs d'asile vers le Rwanda. Et même la compagnie aérienne nationale rwandaise a dit non, de peur que ça nuise à son image. Une autre compagnie, Air Tanker, serait en pourparlers pour assurer ses allées simples, chose qu'elle avait déclarée en 2022 ne pas avoir en projet.
Sachant qu'il y a encore d'autres écueils sur le chemin de ce plan d'expulsion.
Il y aurait aussi un manque de logements pour les expulsés. À en croire les médias britanniques, les propriétés de la capitale rwandaise destinées au projet auraient été vendues à des locaux. Au moins 70% des logements du domaine Buiza Riverside à Kigali seraient concernés, ce que nie le gouvernement rwandais qui affirme que ce domaine n'était qu'un projet parmi d'autres destiné aux migrants. Le parti d'opposition travailliste, lui, a demandé au gouvernement des éclaircissements urgents sur ce qu'il a qualifié de farce ratée. Il a aussi rappelé que le plan rwandais couvrira moins de 1% des arrivées. Actuellement, le Rwanda ne peut accueillir que 200 demandeurs d'asile à la fois en provenance du Royaume-Uni. Pas sûr que ce soit suffisant pour dissuader les près de 30 000 migrants qui ont traversé la Manche en 2023. Mais ne pas l'adopter serait aussi un ultime camouflet pour Rishi Sunak, qui a fait de la lutte contre l'immigration une priorité de son mandat. À l'approche des élections générales, le Premier ministre s'y accroche dur comme fer pour espérer grappiller quelques voix radicales. Et alors qu'il est malmené par des dissensions internes à son parti et une opposition qui est en avance dans les sondages, ce texte est presque devenu un vote de confiance.
Isaac, est-ce qu'on a répondu aux questions que vous vous posez sur ce projet d'expulsion si controversé?
Merci beaucoup.
Merci à vous de nous avoir appelés. Merci Caroline Renaud d'être venue avec nous. Je rappelle que vous vous étiez plongée sur ce sujet dans un long article sur lequel je vous renvoie une fois encore sur le www.rfi.fr. Pierre Olivier nous a rejoint en studio maintenant, journaliste au service France de RFI. Bonjour Pierre.
Bonjour Edouard, bonjour Alex.
Vous allez répondre justement à une question d'Alex qui nous appelle de Bangui, capitale de la République centrafricaine. Alex, bonjour, soyez le bienvenu.
Oui, bonjour.
On écoute votre question.
Ok, l'État islamique a proféré des menaces à l'encontre des stades français qui vont accueillir les matchs de la Ligue des Champions. Y a-t-il un risque que cette menace plane également sur les Jeux Olympiques.
Bien sûr, vous ouvrez le débat sur ce grand événement que la France va accueillir dans 3 mois. Alors, vous avez évoqué d'abord cette menace d'attentat. On rappelle que la semaine dernière, avant les premiers quarts de finale de la Ligue des Champions, les autorités, et notamment françaises, avaient effectivement renforcé le dispositif de sécurité aux abords des stades qui accueillaient ces rencontres, en évoquant une menace accrue. Vous avez souhaité élargir la question, Alex, parce qu'on le rappelle, ce sont plus de 600 000 spectateurs qui sont attendus pour la cérémonie d'ouverture des JO qui aura lieu normalement sur la Seine, le fleuve qui traverse Paris le 26 juillet prochain. 10 500 athlètes qu'on attend pour défiler, 205 délégations. Pierre-Olivier, c'est évidemment cette cérémonie qui cristallise toutes les craintes.
Et oui, d'abord car sa configuration est unique. Vous l'avez évoqué, cette cérémonie n'aura pas lieu dans un stade relativement facile à sécuriser comme c'est le cas d'habitude, mais en plein air, sur une distance de 6 km, sur un fleuve. Et la menace peut venir de partout, des immeubles le long de la Seine dans lesquels pourraient se trouver des snipers. Elle peut aussi venir des airs avec des drones chargés d'explosifs, du sol bien sûr, mais aussi de l'eau, car des bombes pourraient être immergées dans la Seine. Ce matin, chez nos confrères de BFM TV, Emmanuel Macron a toutefois précisé qu'en cas de menace terroriste, la cérémonie pourrait être limitée au Trocadéro, voire au Stade de France. Il y aura donc bien un plan B et même un plan C en cas de menace avérée.
Pour ce que l'on en sait justement, à l'heure actuelle, quel est l'état de cette menace ?
Alors depuis l'attentat perpétré par l'État islamique, vous vous en souvenez, il y a 3 semaines à Moscou, qui a fait 144 morts, la France a rehaussé son plan Vigipirate au niveau maximal. 2 attentats ont d'ailleurs été déjoués sur le sol national depuis janvier. Mais pour l'instant, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'assure, il n'y a pas de menace terroriste caractérisée sur l'organisation de ces Jeux Olympiques. Autrement dit, pas de menace clairement proférée, comme c'était le cas pour les matchs de la Ligue des Champions, qui se sont d'ailleurs déroulés sans encombre. Et puis, il faut préciser que la menace ne vient pas que des groupes terroristes djihadistes. Il peut aussi s'agir d'une cyberattaque. Elle peut venir de l'ultra-droite, de l'ultra-gauche ou encore d'environnementalistes radicalisés.
Menace au pluriel qui impose de très nombreuses mesures de sécurité. Alex, c'était justement la deuxième partie de votre question.
Justement. À 3 mois de l'événement, quelles mesures de sécurité sont mises en place par le ministère de l'Intérieur ?
Ça va être des moyens colossaux, Pierre.
Oui, 45 000 policiers et gendarmes seront mobilisés rien que pour sécuriser les abords de la cérémonie. 2 500 forces de l'ordre étrangères qui seront armées viendront renforcer ce dispositif, ainsi que des équipes cynophiles de détection d'explosifs. Et puis le 26 juillet au soir, l'espace aérien sera entièrement fermé dans un rayon de 150 km autour de Paris. Aucun vol commercial n'aura lieu pendant l'intégralité de la cérémonie. Et puis une semaine avant cette cérémonie, la quasi-intégralité des bords de Seine sera bunkérisée. Il faudra montrer une carte d'identité, un QR code pour y entrer. Et puis pendant toute la durée des Jeux, ce sont en moyenne 35 000 policiers et gendarmes qui assureront la sécurité tous les jours.
Menace qui pourrait donc venir de l'extérieur de ces Jeux Olympiques. Les autorités semblent même se préparer à une menace de l'intérieur, parce qu'en amont de ces Jeux, les services du ministère ont passé au crible les centaines de milliers de bénévoles, d'agents de sécurité et d'équipes encadrantes des athlètes. Toutes ces milliers de personnes qui participent à l'organisation des Jeux.
Et au total, c'est 1 million de personnes qui feront l'objet d'une enquête administrative sur 195 000 dossiers déjà traités. 161 fichiers S ont été écartés de l'organisation. Parmi eux, 105 pour islam radical, 35 de l'ultra-droite, 18 de l'ultra-gauche et 3 pour ingérence étrangère. Mais cela sera-t-il suffisant ? Les activistes de Saccage 2024 qui menacent de perturber les JO ont déjà fait savoir que plusieurs de leurs membres avaient passé l'étape de l'enquête administrative et avaient été sélectionnés comme volontaires.
Pierre-Olivier, qui en a presque perdu sa voix pour vous répondre. Merci beaucoup Pierre. Alex, est-ce que vous êtes satisfait des réponses que l'on vous a apportées ?
Très, la voix de Monsieur Olivier, vraiment, merci de nous recevoir.
Je vous en prie, la voix est revenue.
Merci pour votre appel, Alex. On va prendre maintenant la question d'Hulbert, qui nous appelle du Tchad, d'Abéché précisément. Vous nous avez appelé au 339 693 693 70. Soyez le bienvenu, on écoute votre question.
Oui, bonjour Edouard, bonjour à tous qui nous écoutent dans le Sahel. La semaine dernière, le porte-parole du gouvernement malien, Abdoulaye Maïga, a annoncé la suspension de toutes les activités des partis politiques dans le pays. J'aimerais comprendre plusieurs choses à travers les différentes questions que je vous pose ce matin. La première question est pourquoi cette suspension survient-elle maintenant?
On va commencer effectivement par répondre à cette première partie de votre question qui va permettre aussi d'introduire le débat sur lequel les auditeurs de RFI nous appellent tout à l'heure. Et pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Mohamed Amara. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu.
Bonjour messieurs.
Vous êtes sociologue et enseignant-chercheur à l'université de Lyon 2. Vous avez aussi publié un ouvrage, Marchand d'angoisse, le Mali tel qu'il est, tel qu'il pourrait être, aux éditions de Granvaux. Monsieur Amara, que peut-on répondre à Hulbert sur d'abord le pourquoi de cette décision de suspension des activités des partis politiques et pourquoi maintenant?
Merci pour la question. Pourquoi maintenant? Parce qu'il se trouve que le marigot politique malien évolue très rapidement et qu'il y a déjà eu un précédent. Le pouvoir de transition malien a déjà suspendu, voire même dissolu des associations comme l'Observatoire des élections, comme l'AEM, l'Association des étudiants et des élèves maliens, qui date des années 91.
Qui avait joué un rôle particulièrement important dans la chute de Moussa Traoré d'ailleurs.
Tout à fait un rôle majeur. Et donc il y a eu tout ce précédent et je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en lien avec cette dissolution des partis et associations politiques, c'est lié au risque, je pense, du point de vue du pouvoir de transition, à faire face à des mouvements sociaux qui seraient à l'origine d'une probable insurrection. Donc c'était une façon pour eux d'anticiper sur les risques de soulèvement populaire orchestrés par toutes ces associations, par tous ces Maliens qui ont été d'une façon ou d'une autre mis à l'écart par le pouvoir du fait de leur opposition au pouvoir de transition. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, pour finir, parce qu'il y a d'autres questions, Alex, il me semble, c'est aussi le fait que la situation géopolitique malienne devient de plus en plus difficile. Entre le Mali et l'Algérie, ce n'est pas tout à fait ça, parce que rappelez-vous que l'imam Mahmoud Diko est en Algérie depuis plus de 2 mois et a du mal à revenir au Mali, alors qu'il a été une des figures de proue du mouvement qui a contribué à la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta en 2020. Donc il y a toutes ces tensions qui sont là, qui sont latentes, et que du point de vue du pouvoir de transition, la seule façon donc d'empêcher tout mouvement, donc c'est de dissoudre les partis politiques qui sont quand même l'alpha et l'oméga de tout pouvoir démocratique.
Monsieur Amara, vous semblez ne pas souscrire à ce que disait Abdoulaye Maïga lors de son point presse la semaine dernière, puisqu'il avançait particulièrement 2 raisons. Lui disait il y a plusieurs défis sécuritaires à relever au Mali, et pourtant les partis politiques mènent des débats stériles, donc on met fin à ces débats stériles en suspendant leurs activités. Et puis, il faut aussi instaurer un climat de sérénité juste avant l'ouverture du dialogue intermalien. Les explications que vous nous donnez, si je paraphrase vos mots, on a l'impression d'un pouvoir de transition qui semble aux abois. Vous ne semblez pas du tout souscrire à ce que disait Abdoulaye Maïga.
Bien sûr, parce que bon, c'est vrai qu'il a mis en avant le ministre de l'administration, le fait que bon, il y a un risque de trouble, qu'il y a aussi bon, des débats qui ne servent à rien, alors qu'ils étaient en train d'organiser le dialogue intermalien pour ramener la paix. Mais tout ça reste pour moi du narratif pour plutôt noyer le fait que il y a aujourd'hui une réelle difficulté de consensus, j'aime pas le terme consensus, mais difficulté à s'entendre entre les Maliens pour savoir qu'est-ce qu'il en est de la suite de la transition. Rappelez-vous que la transition devait finir en février dernier, et il se trouve que elle a été prolongée depuis
pour le moment sans aucune autre date. Mohamed Amara, je suis obligé de vous interrompre parce que l'horloge nous l'impose, mais je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et à celles d'Hulbert sur RFI. Merci beaucoup.